C'est pas grave, c'est pas grave, laissez les musiques. C'est pas grave.
Ouais. On va faire un petit. Et vous êtes de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec Vendry de Guerpel et Valentin Gore de Valeurs Actuelles. Et nous accueillons à l'instant Nicolas Bay, monsieur le député européen, monsieur l'eurodéputé, monsieur le député français au Parlement européen. Il y a beaucoup d'appellations à laquelle vous convient.
Ah, vous savez, il y en a même une, c'est le représentant de la France au Parlement européen. C'est la terminologie exacte dans les textes juridiques français. Voilà.
Très
donc
bien.
On choisit entre tout ça, mais l'essentiel, c'est que je suis un militant patriote depuis mon adolescence et j'essaye de le rester, quelles que soient les fonctions, mandats occupés.
Très bien. Vous êtes donc eurodéputé, vice-président du groupe ECR au Parlement européen. Vous êtes adhérent à Identité et Liberté, le parti de Marion Maréchal. Vous étiez vice-président du Rassemblement National, que vous avez quitté en 2022 pour rejoindre Éric Zemmour. Vous étiez vice-président exécutif de Reconquête. Vous avez reçu hier le cardinal Robert Sarah au Parlement européen dans le cadre de votre mandat d'eurodéputé. Déjà, pourquoi avoir reçu le cardinal Sarah, tout simplement?
C'est une initiative que nous avons prise avec un de mes collègues italiens, Paolo Inselvini, qui est dans le groupe, même groupe parlementaire que moi, et qui est dans le parti politique de Giorgia Meloni. Et une initiative parce que nous avons beaucoup d'occasions de recevoir des personnalités diverses et variées au Parlement européen, mais bien souvent, et parfois des gens remarquables, hein, sur des sujets techniques, des gens compétents, etc. Mais nous, ce que nous avons voulu, en invitant le cardinal Sarah, qui nous a fait l'honneur de venir, c'est poser la question de fond de l'Europe. Parce que finalement, cette Union européenne, elle s'est construite depuis 60 ans, au gré des traités successifs, et souvent à la fois animée par la bureaucratie sur le plan technique et par l'idéologie sur le plan politique, elle s'est coupée à la fois des peuples et elle s'est coupée de ses racines. Mmh. Et quoi de mieux pour évoquer les racines de l'Europe que de faire venir une personnalité éminente du christianisme contemporain, qu'est le cardinal Sarah? Parce que quand on parle des racines de l'Europe, quand on écoute les technocrates européens, ils vous expliquent que rien ne s'est passé avant Jean Monnet et Maurice Schumann, de la même manière que quand vous écoutez LFI, ils vous expliquent que la France a commencé en 1789. Bon. Et puis nous savons, parce qu'on en a un peu de mémoire, que la réalité est bien différente et que les racines de l'Europe, elles sont, c'est la raison grecque, la philosophie grecque, c'est le droit romain et c'est la chrétienté. Et finalement, c'est une réalité qui n'est pas une réalité idéologique, c'est même pas un choix individuel. Il y a la question de la foi qui est le choix individuel. Mais le fait que l'Europe soit chrétienne et que les nations européennes soient chrétiennes, c'est une réalité qui s'impose à tous, qu'on soit croyant ou non, pratiquant ou non. Et parce que toute notre histoire, notre culture, notre philosophie, notre droit, notre littérature ont été imprégnées par le christianisme. Ça, c'est une réalité. Et le cardinal Sarah, qui est un très grand intellectuel, qui était un très proche ami personnel du pape Benoît XVI, qui a occupé les plus éminentes fonctions, notamment de préfet de la Congrégation pour le culte divin au Vatican, et qui a été aussi, et c'est intéressant, un prêtre, un évêque de terrain, puisqu'il a été nommé à 34 ans archevêque de Conakry, en Guinée. Ça a fait de lui d'ailleurs le plus jeune évêque du monde. Et dans un contexte très difficile, puisque c'était les dernières années de la dictature de Sékou Touré, qui n'était pas tendre, hein, c'était un régime marxiste extrêmement violent, qui avait d'ailleurs envoyé 9 ans en prison son prédécesseur. Donc, voilà, donc il a connu la persécution, la confrontation, Et pas seulement les ordres du Vatican. Et il nous a délivré un très beau message, une conférence d'un niveau remarquable, qui a d'ailleurs fait ça le comble au Parlement européen, y compris en plein mois de juillet, sur voilà, ce que sont nos racines profondes et en quoi l'Europe ne peut pas avoir de sens si elle ne renoue pas avec ses racines, ses valeurs chrétiennes, et dont elle s'est détachée. Et d'ailleurs, dans la relation de l'Union européenne, de l'Europe avec l'Afrique, il a pointé du doigt cette anomalie, ce scandale même d'une Europe qui pratique une sorte de néocolonialisme woke, en allant expliquer à l'Afrique qu'il faut des droits des LGBT, qu'il faut accepter toutes les règles de la démocratie moderne. Et quand il parle de démocratie moderne, c'est pas simplement les processus démocratiques.
Oui, y a un irrespect,
c'est derrière tout ça les valeurs progressistes, pour dire les choses simplement. Et donc, y a un côté insupportable de voir l'Union européenne faire la leçon au continent africain. Et ça pose donc aussi la question de savoir quel sens de cette Europe. Et d'ailleurs, je pense que c'est la question en réalité qui se pose dans chacune de nos nations, et en France bien sûr. Les Français ne sont pas opposés à l'idée européenne, la conscience civilisationnelle, parce qu'il y a une civilisation européenne, c'est incontestable, et il y a des défis communs à relever dans le futur, et pas seulement un passé commun, mais à condition que ce soit au service des nations, au service des peuples, au service de la grandeur de notre civilisation, qui a d'ailleurs rayonné bien avant que l'Union européenne existe. Voilà, et pas ce projet cadenassé, où on fait tout à 27, où ce sont les commissaires européens que personne n'a élus et que personne ne connaît qui décident à la place des gouvernements légitimement élus. Voilà, c'est deux visions de l'Europe, finalement, si on résume. Et le cardinal Sarah, avec la hauteur spirituelle qui est la sienne, a évoqué ces sujets-là remarquablement. Voilà, une Europe qui doit retrouver du sens et qui doit donner du sens.
Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, quand le Parlement européen, pour la plupart des Français, c'est très loin, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, et on sait que la plupart des députés européens s'arrachent les cheveux en disant « mais comment est-ce que je pourrais vraiment faire connaître ce que je fais au Parlement européen ?» parce que tout cela est assez difficile à faire passer. Mais ce qui est marquant quand on y va, et c'est là où on voit que la France politiquement est une exception à l'échelle européenne, c'est qu'au Parlement européen, on peut recevoir un archevêque, le faire recevoir par des parlementaires européens, débattre sans censure des racines chrétiennes de la France, des racines chrétiennes de l'Europe, et parler de sujets dont on sent qu'en France, cela pose encore des vrais débats où on n'ose pas justement aller sur le terrain de la foi, on n'ose pas aller sur le terrain spirituel, et c'est peut-être cette liberté que vous laissent les institutions européennes, même si c'est un enfer technocratique froid, etc. Intellectuellement, on s'aperçoit que la France, en fait, le modèle français est très isolé au niveau européen.
Oui, en tout cas, ce qui est vrai, tout à fait juste, c'est que le modèle de laïcité exacerbée ou de laïcisme est une spécificité française. C'est-à-dire que quand on voyage en Europe, on se rend compte que partout en Europe, même quand il y a des gouvernements socialistes comme en Espagne, on a une laïcité qui est souvent plus saine, c'est-à-dire non pas la séparation qui relègue dans l'esprit de la loi de 1905 le fait religieux et les symboles religieux et la croyance religieuse à la sphère privée, mais simplement la distinction des ordres, c'est-à-dire la distinction entre le temporel et le spirituel, qui est d'ailleurs inhérente au christianisme, qui a été inventée par le christianisme, parce que à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, c'est finalement le message évangélique. Ça, c'est la saine laïcité, à ne pas confondre avec cette espèce de laïcisme exacerbé, qui est d'inspiration révolutionnaire, d'ailleurs, qui caractérise la gauche et l'extrême gauche, qui consiste à combattre le christianisme pour combattre notre identité et pour supprimer les racines, pour créer le monde nouveau, et finalement du passé faire table rase, selon les paroles de l'international. Mais c'est une vision qui n'est pas partagée en Europe, et c'est vrai qu'au Parlement européen, recevoir le cardinal Sarah, non seulement ça, c'est possible, la preuve, mais surtout, ça a été accueilli très positivement. Il y avait des députés du PPE, comme mon collègue Christophe Gomard, donc qui est LR, mais il y avait également des députés de beaucoup de nationalités, de différents groupes politiques. Il y a la vice-présidente du Parlement qui a fait un petit mot d'introduction. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi, on critique souvent, à juste raison d'ailleurs, l'Union européenne et ses défauts, mais c'est vrai que sur ce plan-là, c'est un espace de liberté qu'on cherche parfois un peu en France.
Je vais laisser la parole à mes autres invités qui auront sûrement des questions à vous poser, mais je vous dis cela parce qu'on a vu dans le cadre de débats sur la fin de vie, on a vu une prise de parole de Monseigneur Hayet, donc évêque de Bayonne, qui avertissait sur les députés catholiques qui voteraient pour l'euthanasie, n'auraient plus le droit de communier, en tout cas se priveraient des sacrements, ce qui est une vérité canonique assez basique, et on a vu une espèce de levée de bouclier venant de la gauche, du centre, mais aussi de la droite, disant que c'était scandaleux qu'un évêque rentre comme ça, menace en quelque sorte, menace des politiques d'excommunication. Ça paraît assez irréaliste en fait quand on voit ça.
Il y a un phénomène qui est quand même étrange, c'est une classe politique qui demande à l'Église de ne pas exister dans le débat public, comme si l'Église catholique n'avait pas une voix qui est attendue et entendue. Toutes les ONG ont le droit de parler, heureusement, d'ailleurs, tant mieux, la liberté d'expression existe et on voit vraiment pas pourquoi les représentants des religions auraient moins le droit de s'exprimer que les autres. Ce serait quand même assez extravagant. Et les mêmes qui ensuite nous expliquent que l'Église n'a pas le droit de rappeler ses principes. Mais personne n'est obligé d'y adhérer, d'y souscrire. L'Église, le rôle d'un prélat et d'un évêque, en l'espèce l'évêque de Bayonne, Mgr Hayet, c'est de rappeler les règles de l'Église. Et éventuellement d'en débattre avec ses confrères évêques ou avec le clergé. Mais je vois pas pourquoi les politiques s'autoriseraient à remettre en cause des règles qui sont immuables dans l'Église. Et d'ailleurs, ce phénomène n'est pas nouveau. Qu'un évêque rappelle les principes de l'Église, la défense de la vie, et qu'il explique donc un parlementaire qui voterait un texte qui atteint très gravement à la défense de la vie se placera en situation d'excommunication. Bon, il rappelle simplement le magistère de l'Église et la doctrine. Mais vous savez, par exemple, quand le pape Jean-Paul II s'était rendu à la fin des années 70 en France, je crois que c'était son premier voyage en France, au tout début des années 80, il avait fait savoir au président Valéry Giscard d'Estaing qu'il ne lui remettrait pas la communion s'il se présentait à cause de la loi Veil qui avait été adoptée quelques années plus tôt. Voilà, c'est le rôle. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, on a le droit de ne pas être d'accord, bien sûr, hein, le débat est libre. Mais je veux dire, on ne va quand même pas empêcher les évêques catholiques de rappeler ce qui est la doctrine de l'Église catholique.
Valentin Gore, c'est
une question. Oui, je rebondis sur l'euthanasie. Vous parliez très justement de cette nécessité de recharger les institutions européennes, de l'histoire de la civilisation européenne. Est-ce que vous avez, avec vos collègues d'autres nations, des discussions sur ce sujet essentiel de l'euthanasie? On voit qu'il il est adopté, par exemple, aux Pays-Bas depuis 25 ans. Je lisais ce matin dans la Croix qu'il représente déjà 6% des décès aux Pays-Bas, ce qui est tout à fait considérable. Dans d'autres pays comme l'Italie, pour l'instant, ils sont préservés. Est-ce que vous réfléchissez à une action à ce niveau-là, au niveau du Parlement européen, sur ce sujet essentiel pour la civilisation européenne ?
Oui, bien sûr. Dans notre groupe des conservateurs et réformistes européens, on a un vrai consensus sur ces questions-là. Il y a des groupes où il y a des députés qui ont une position très claire, mais qui n'est pas forcément partagée par leurs collègues. Hein, il y a tous les cas. Dans notre groupe ECR, il y a un unanimisme pour dire les choses simplement sur ces sujets-là. Après, nous, on est évidemment très respectueux de la souveraineté des nations et on défend une vision de l'Europe qui respecte les souverainetés nationales. Donc on est typiquement dans des domaines de compétences nationales et on ne souhaite pas du tout que l'Union européenne, pour le meilleur et souvent pour le pire, se mette à interférer dans ce genre de politique. Mais malheureusement, elle le fait. Hein. On l'avait vu avec, par exemple, la volonté de certains d'inscrire l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux, un peu par symétrie, en quelque sorte, avec l'initiative d'Emmanuel Macron de l'inscrire dans la Constitution française. Donc, ces débats, c'est des combats qu'on mène au niveau européen. Sur l'euthanasie, on a eu l'occasion de l'évoquer, de travailler dessus. Ce que nous souhaiterions, évidemment, c'est que ce soit aboli partout en Europe. Et malheureusement, la tendance actuelle est inverse, puisqu'il y a de plus en plus de pays qui le légalisent, y compris sous la forme très permissive, comme c'est le cas en France, malheureusement, ces jours-ci. Et puis nous menons, et je pense à ma collègue Laurence Trochu, qui siège dans le même groupe que moi, nous menons aussi le combat, par exemple, sur la GPA, pour la criminaliser à l'échelle européenne, et même, si possible, de manière universelle, à l'échelle mondiale. Voilà, parce qu'on peut considérer aussi que c'est un combat simplement de défense de l'humain, tout simplement, de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine. Et donc, ça, pour le coup, c'est un combat qui dépasse les frontières. Alors, on respecte les souverainetés nationales. Il y a des gouvernements qui prennent des décisions et avec ou pas l'accord de leur peuple, d'ailleurs. Hein, il ne faut quand même pas oublier, d'ailleurs, quand on parle de ces sujets-là, que très souvent, les réformes sociétales, on les appelle comme ça pour en minimiser la portée, alors qu'elles ont elles ont une dimension anthropologique majeure. Et souvent aussi, ce qui les caractérise, c'est qu'elles ne figurent pas dans les programmes électoraux. Et les gouvernements qui les mettent en œuvre, c'est quand ils sont à bout de souffle, qu'ils n'ont plus d'argent pour faire quoi que ce soit, et ils se disent on va faire une réforme sociétale parce que ça donne l'illusion de l'action, ça va satisfaire une petite catégorie, et puis ça coûte pas un seul euro. Voilà, donc on l'avait vu avec le mariage pour les personnes de même sexe, de la même façon, quand une fois que François Hollande s'est montré incapable dans absolument tous les domaines, bon, bah, il a fait cette réforme pour satisfaire, voilà, une petite clientèle. Et on voit aujourd'hui que dans le macronisme agonisant, puisque c'est quand même de ça dont on parle, hein, au bout de 9 ans de pouvoir, où ça a été échec sur échec, effondrement, délitement de la France, ça, exactement, bah, on voit qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire qu'à proposer cette loi. Ce qui est frappant et dommage, c'est qu'on a vu au Parlement des débats avec des interventions parfois remarquables sur la gravité de cette dérive potentielle et le fait que des soignants se retrouvaient à donner la mort. Et on a même vu des députés un peu fragilisés, ballottés, qui initialement étaient plutôt favorables, ont compris qu'il y avait un danger et ont finalement fait évoluer leur vote en s'abstenant, en votant contre au gré des scrutins des successifs. Voilà, mais malheureusement, il semble qu'il y ait toujours une majorité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de Français s'il y avait un vrai débat, si on permettait un vrai débat ouvert national sur ce sujet, je ne pense pas qu'il y ait une majorité de Français pour le défendre.
En tout cas, plus on a le sentiment que plus on explique, plus les gens sont contre, effectivement. Il y a un groupe qui a été très mobilisé justement cette question, c'est le Rassemblement National, puisque plus de 80% des députés ont voté contre ce texte. Justement, le Rassemblement National, Nicolas Bay, vous êtes l'ancien vice-président. Vous avez été, vous aussi, on a beaucoup parlé de la condamnation de Marine Le Pen, vous avez été vous aussi condamné en appel, alors moins qu'en première instance comme Marine Le Pen, parce que vous avez été condamné à 1 an de prison avec sursis, 5 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité avec sursis, ce qui fait que vous restez eurodéputé, vous continuez de siéger au Parlement européen. Juste pour revenir rapidement sur ce jugement en appel, un peu comme Marine Le Pen, vous en êtes sorti avec un certain soulagement.
Oui, bien sûr. Je me permets une toute petite parenthèse finale sur le point qu'on évoquait précédemment. C'est bien qu'il y ait 80% des députés du RN qui aient voté contre l'euthanasie. Ça aurait été bien qu'il y en ait 100%, mais enfin bon, voilà. Et par contre, je note qu'il y a un groupe qui a été à 100% en contre, c'est le groupe UDR d'Éric Ciotti.
Absolument.
Et c'est tout à fait remarquable et ça mérite d'être noté. Alors, ils sont moins nombreux, mais en tout cas, ils ont eu une vraie cohérence de groupe, unité de groupe.
Ils sont aussi nombreux que les députés RN qui ont voté pour. En tout cas, ils sont 12.
Ah, voilà. Donc ça montre une vraie solidité voilà, sur le fond. Je repasse sur le procès. Bah, écoutez, on voit quand même dans cette affaire que la montagne a couché un peu d'une souris, parce qu'on a eu 11 années de procédure où on nous avait dit que ce qu'on avait fait était horrible. Nous répondions de manière constante qu'on avait une divergence d'appréciation avec le Parlement européen, que c'est un différend administratif, quel est le périmètre exact de l'activité parlementaire et quel est donc le périmètre de l'activité politique. Il ne serait pas parlementaire, il n'y a aucun texte qui le définit. Et donc nos assistants parlementaires nous ont assisté dans le travail parlementaire. Est-ce que ça a débordé sur un travail qu'on pourrait considérer comme non parlementaire? Bon, c'était ça le débat. En tout cas, il n'y a eu aucun enrichissement personnel, ça a été souligné. Au bout de 11 ans, on aboutit à des peines qui, pour l'essentiel, sont symboliques. Je dirais Marine Le Pen est un peu l'exception et je suis le premier à déplorer que la peine qu'elle subit soit un peu plus lourde, hein, d'ailleurs. Mais on voit quand même que par rapport au jugement de première instance qui était d'une extrême lourdeur avec une volonté de nous éradiquer de la vie politique, pour dire les choses simplement, parce que les peines d'inéligibilité de plusieurs années, avec exécution provisoire, c'est une sorte de peine de mort politique. Il faut quand même dire les choses clairement.
Alain Juppé en est revenu, ceci dit. Alain Juppé qui avait été condamné à l'inéligibilité, il est parti au Québec, il est revenu, il a même failli être candidat à l'élection présidentielle.
C'est vrai, mais d'ailleurs, la question de l'inéligibilité, je pense, c'est un vrai problème de fond. Normalement, ça doit revenir au peuple. Que la justice fonctionne, qu'elle prononce des amendes, des peines de prison, c'est normal, à condition qu'elle n'interfère pas évidemment dans le processus démocratique. Il faut reconnaître d'ailleurs que les juges d'appel ont veillé à ne pas interférer dans le processus démocratique en n'empêchant pas Marine Le Pen d'être en situation d'être candidate à la présidentielle. C'est louable, parce qu'on a eu beaucoup de cas dans le passé où on voyait les juges interférer sans complexe dans les processus électoraux. On se souvient de l'affaire Fillon, etc., où on avait le sentiment que l'institution judiciaire était totalement instrumentalisé. Bon, voilà, on voit que les juges d'appel, la Cour d'appel de Paris, n'ont pas voulu tomber dans ce travers, donc il faut le reconnaître aussi. Et après, pour le reste, on voit bien que l'inéligibilité, bon, bah, c'est aux Français, c'est au peuple de décider. Si quelqu'un a commis...
Vous allez vous pourvoir en cassation ou pas ?
Oui, je pense que nous allons nous pourvoir. La plupart de ceux qui ont été condamnés vont se pourvoir en cassation parce qu'on a encore des moyens de droit à développer et pour faire valoir notre innocence. Voilà, mais même si... Encore une fois, pour ce qui me concerne, je considère que la peine que je subis est assez symbolique, puisque j'ai que du sursis et une amende légère. Donc voilà, c'est un soulagement en effet. Ça me permet de continuer le combat politique de manière plus sereine, mais par principe, parce que je considère que nous n'avons commis aucune infraction et que nous avons utilisé nos assistants parlementaires, et pour ce qui me concerne depuis 12 ans maintenant au Parlement européen, au service du travail parlementaire qui nous a été confié par les Français. Voilà, parce qu'on a un mandat du peuple. Quand on est élu ou réélu, les Français nous demandent, et ils nous demandent pas de servir les institutions européennes et leurs dérives actuelles. Ils nous demandent de servir les intérêts de la France au Parlement européen, et c'est ce qu'on s'attache à faire, et c'est ce que nous continuerons de nous attacher à faire. Et c'est cette vision-là que nous défendrons, y compris en utilisant les voies de cour devant la Cour de cassation.
Nicolas Bay, eurodéputé, vice-président du groupe ECR au Parlement européen. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir et poser vos questions au 01 46 51 00 85 ou par téléphone au 01 46 51 00 85 à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr. Vendredi de Garpel, vous avez une question pour Nicolas Bay.
Oui, après cette décision judiciaire, tout le monde était penché sur cette décision du 7 juillet. Cap sur 2027, va être la place de votre parti, du parti de Marion Maréchal, au sein du dispositif de la présidentielle 2027? Comment faire campagne avec le Rassemblement national?
J'aurais tendance à vous répondre que c'est aussi peut-être la question à poser à la candidate du camp national, et pas seulement du Rassemblement national, qui est Marine Le Pen, et que nous soutenons sans réserve, de manière constante, depuis le lendemain des élections européennes et la dissolution de 2024. Nous avons souhaité éviter toute forme de division des forces patriotiques. Et c'est ce qui a été un point de divergence avec Éric Zemmour, même si j'ai respecté Éric Zemmour et je respecte les convictions qu'il défend. Je pense qu'aujourd'hui la situation du pays nécessite l'unité des forces nationales, et donc la place exacte des uns et des autres, je dirais, c'est pas ça qui importe le plus. Ce qui est important, c'est que tous les Français patriotes qui veulent un grand changement et qui veulent en finir avec le macronisme et qui ne veulent pas d'un post-macronisme, que ce soit Attal ou Édouard Philippe, bien puissent se reconnaître dans la candidature de Marine Le Pen. Et donc ça nécessite évidemment que cette candidature tende la main le plus largement possible à tous ceux qui veulent un changement sur une ligne politique claire, et évidemment c'est à elle de définir son projet politique. Nous serons à ses côtés avec les autres députés qui siègent avec moi au groupe ECR, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu. Et après, nous pensons que ce qui est important, c'est qu'on soit capable, collectivement, de s'adresser à tous les Français. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français de droite, attachés aux libertés économiques, attachés à une vision conservatrice, et qui veulent aussi défendre notre identité, qui peuvent voter Marine Le Pen, mais qui ont parfois besoin d'être un peu rassurés sur certains sujets. Voilà, je le dis avec amitié pour le Rassemblement National. J'en ai fait partie pendant des années, j'en ai été un des dirigeants. Ils sont très hauts dans les sondages, et je m'en réjouis. Ils peuvent gagner, et les sondages disent même qu'ils gagnent dans tous les cas de figure au deuxième tour, et je m'en réjouis sans réserve, mais il faut transformer l'essai, et transformer l'essai, c'est s'adresser à ces Français qui régulièrement n'ont pas voulu voter pour l'Assemblée nationale parce qu'ils considéraient qu'ils se retrouvaient, ils n'avaient pas le sentiment que leurs idées ou les valeurs auxquelles ils croyaient étaient totalement représentées au Rassemblement national. Donc voilà, c'est un peu, je sais pas, pour renvoyer la balle, c'est pour ouvrir le débat de manière constructive. Je pense que c'est important, dans une campagne présidentielle, de s'adresser au plus largement possible à tous ceux qui veulent un changement.
Justement, Nicolas Bay, vous avez, à part un court passage par le MNR, vous êtes un militant historique du Front National devenu Rassemblement National. Vous avez été vice-président du parti, secrétaire général adjoint. Vous avez quand même de grandes responsabilités au sein de ce parti. On sait, votre départ du RN s'est fait dans des conditions, on va dire, un peu brutales. Vous avez recroisé Marine Le Pen au tribunal, vous avez partagé les mêmes bancs. Où en sont vos relations aujourd'hui avec le Rassemblement National, avec Marine Le Pen? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être plus apaisé que par rapport en 2022? Est-ce qu'il y a une dynamique, on va dire, qui est en train de se monter avec tous les élus patriotes?
Je pense que les conditions sont réunies pour une dynamique très large. Mais encore une fois, il faut la faire vivre concrètement, et la faire vivre pendant 8 ou 9 mois de campagne où les coups vont pleuvoir de toutes parts, de la part de nos adversaires. Moi, j'ai largement normalisé mes relations avec le Rassemblement National, et je souhaite que ça se poursuive, parce que je considère que les divergences politiques, elles sont louables, ça peut arriver en politique de pas être d'accord. Quand c'est des divergences qui portent sur le fond, sur les idées, sur les valeurs, il faut que le débat ait lieu, que ça aboutisse parfois à des fractures, que ça aboutisse même parfois à des concurrence des compétitions électorales. On peut le déplorer, mais c'est sain. Ce qui est malsain en politique, c'est quand les gens ne croient en rien, n'ont aucune conviction, et qui finissent par se quereller sur parce qu'ils ont chacun un petit agenda, un petit plan de carrière, et que la confrontation ne porte que là-dessus. Quand on a des idées, voilà, un peu différentes, moi j'ai toujours présenté au sein du Rassemblement National une sensibilité plutôt libéral économiquement, peut-être moins étatiste que Marine Le Pen, peut-être conservatrice. Plus conservatrice, voilà. Mais je suis parfaitement conscient que si on veut faire 50% des voix et arracher la France au déclin, il faut rassembler très largement. Et donc je conçois très volontiers que dans un grand mouvement d'alternance politique, eh bien il faut travailler avec des gens qui ont une sensibilité différente de la mienne. Voilà, je pense que cette démarche là, elle correspond aujourd'hui, j'en suis convaincu, à l'état d'esprit de Marine Le Pen. Et elle a, c'est vrai, la lourde responsabilité de la mettre en œuvre concrètement, cette dynamique de rassemblement. Et nous sommes nombreux, avec Marion Maréchal et d'autres, avec Éric Ciotti, bien sûr, à vouloir l'y aider.
Valentin Gore, vous avez une question?
Oui, je rebondis sur ce que vous dites, monsieur, sur notamment l'économie. Hein. Alors, vous avez dans votre groupe les députés du parti Fratelli d'Italia, qui sont quand même un modèle à ce niveau-là, qui ont réussi à prendre le pouvoir démocratiquement, évidemment, comme dirait Édouard Philippe, avec Giorgia Meloni, qui a su aussi rassurer les élites économiques, ce qui n'est pas le cas du RN, hein, qui est assez singulier de ce point de vue. En Europe, dans les forces comparables, est-ce que, même si j'ai bien compris que vous étiez un peu, vous faites partie de ce flotteur, peut-être plus conservateur, plus libéral, avec Éric Ciotti d'un autre côté et l'UDR, est-ce que malgré tout, il ne va pas falloir une clarification économique de la candidate si elle veut espérer être élue, notamment sur la question des retraites, hein, qui est quand même assez centrale pour beaucoup de gens de droite qui ne veulent pas voter pour elle à cause de ça, en grande partie?
Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que d'abord, quand on est candidat à la présidentielle, on doit d'abord porter une vision pour la France. On a tendance, c'est vrai, et c'est une tendance depuis 20 ou 25 ans en France, à réduire le débat de la présidentielle à un débat législatif. C'est-à-dire
absolument,
un débat programmatique et parfois technique. Voilà, moi je pense, c'est un peu l'esprit des institutions de la 5e et du général de Gaulle, que le président de la République, il préside la République, il fixe un cap général, et puis le gouvernement met en place la politique de la nation. Et alors, je dis pas ça pour faire un cours de droit constitutionnel, mais plutôt
pour poser... Ça s'est pas vu avec les ans précédents, ça s'est pas très vu avec Nicolas Sarkozy, pas beaucoup avec Emmanuel Macron,
c'est
il y a quand même une transformation du rôle
vrai.
Du président.
C'est vrai, mais d'ailleurs...
Vous voudrez revenir
passage,
aux origines de la 5e,
Ce qui est vrai, c'est que la question que vous posez est très juste, le passage au quinquennat a abouti à déprésidentialiser en quelque sorte la 5e République, ça c'est vrai. Donc le résultat en effet, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la présidentielle qui sert de débat législatif en quelque sorte. Bon, il y a le sujet des retraites, c'est pas le seul. Moi je pense que on verra ce que Marine Le Pen défendra, mais je suis assez convaincu sur les retraites qu'il faut pas s'arc-bouter sur la question de l'âge de départ, il y a plutôt la question de la durée de cotisation, d'une part, et indéniablement l'allongement de la durée de la vie et l'évolution démographique, tant qu'on l'a pas fait évoluer dans le bon sens, et en relançant la natalité, nécessite sans doute d'augmenter le nombre d'années de travail dans une vie. Il faut évidemment le faire de manière juste pour tenir compte de la pénibilité, des carrières longues, de ceux qui ont commencé à travailler jeunes, etc. Moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, je suis favorable à un système simple. Un bloc de retraite par répartition minimaliste, en quelque sorte, qui assure une petite retraite par répartition. Une deuxième couche de capitalisation obligatoire. Donc, vous pouvez choisir dans quoi vous capitalisez, mais c'est de l'argent que chaque mois, dans le cadre de vos cotisations, vous versez pour vous assurer une retraite. Et puis, en troisième niveau de capitalisation facultative. D'ailleurs, ce que font d'ailleurs beaucoup de Français quand ils en ont la possibilité, c'est-à-dire investir dans un bien immobilier, investir dans des produits financiers ou boursiers, etc. Et je pense que c'est le moyen à la fois d'avoir une justice sociale, d'éviter que certains qui ont des accidents de parcours tombent dans la misère avec ce socle par répartition, mais ça permet aussi de préserver un double principe fondamental pour moi, qui est le principe de liberté et de responsabilité. Liberté, c'est-à-dire le choix aussi, des choix qu'on fait dans sa vie d'épargne, de capitalisation pour assurer ses vieux jours, et de responsabilité, c'est-à-dire que celui qui fait pas ses choix d'épargne, eh bien il risque évidemment d'être pénalisé par rapport à celui qui est prudent. Voilà, c'est un peu l'histoire de la fourmi et de la cigale.
Vendredi de Garpel, toute petite question pour finir, et courte réponse, Nicolas Bay.
Oui, est-ce qu'il y a des lignes rouges sur lesquelles, sur lesquelles vous ne transigerez pas et sur lesquelles vous pourriez retirer votre soutien, justement, que ce soit sur le point de vue économique, migratoire, etc.
Vous savez, je pense, je comprends la question que vous posez, je pense que lorsqu'on s'inscrit dans une logique de rassemblement et donc d'action collective, il n'y a rien de pire que de poser des lignes rouges au départ. Oui, mais... Peut-être les évoquer en cours de route, s'il y a un point majeur de divergence. Mais je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui de la nécessité d'avoir un camp national rassemblé, parce que je pense que le post-macronisme, appelons-le comme ça, saura se rassembler à un moment pour préserver leurs petits intérêts et rester au pouvoir. L'extrême-gauche est en embuscade avec Mélenchon, et donc ça nécessite que le camp national soit rassemblé. Moi, je connais Marine Le Pen, je la connais de longue date, j'ai travaillé beaucoup avec elle, et quelles que soient les divergences qu'on ait pu avoir, j'ai confiance en elle pour avoir cette démarche de rassemblement, la mettre en œuvre et veiller à ce que tout le monde puisse se retrouver, tous les patriotes puissent se retrouver dans son projet. Voilà, donc je pose pas de ligne rouge, chacun a ses convictions et chacun doit pouvoir les défendre, mais essayons d'avoir à l'esprit l'intérêt supérieur du pays dans cette bataille électorale et essayons, voilà, faisons tout pour arracher la France au déclin, et ça, ça nécessite que l'ensemble de notre courant de pensée, de famille politique, camp national, parviennent à 50% plus une voix le soir du second tour.
Merci Nicolas Bay, eurodéputé, vice-président du groupe ECR au Parlement européen. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous recevrons le député du Rassemblement national, Christophe Benz, avec qui nous reviendrons en détail sur la loi fin de vie votée hier à l'Assemblée nationale. Restez avec nous, mais tout d'abord, un petit message de votre radio, suivi d'un court intermède musical.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois pour cette dernière partie, le Restons Courtois du jeudi, le Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau toujours avec Vendry de Yerpel de Valeurs Actuelles et nous accueillons Christophe Benz. Bonsoir Christophe Benz.
Bonsoir à vous.
Député du Rassemblement National de Haute-Marne et surtout référent du Rassemblement National sur le texte sur la fin de vie. On rappelle que le texte était scindé en deux, les soins palliatifs d'un côté, la fin de vie de l'autre, et vous étiez responsable de la partie fin de vie. Ce mercredi 15 juillet, donc l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi instaurant un droit à l'aide à mourir, au suicide assisté et à l'euthanasie. Le texte a été approuvé par 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions au terme d'un parcours parlementaire particulièrement long et malgré l'opposition répétée du Sénat, puisque le Sénat a par trois fois refusé d'approuver ce texte. Un vote historique dans une certaine mesure qui divise profondément la classe politique et la société française. Vous avez évidemment milité, bataillé pendant des années contre ce texte. Des regrets, on suppose, devant le résultat du vote d'hier soir?
Beaucoup de tristesse. Des regrets, bien sûr, des remords, sans doute, mais d'abord, une tristesse. J'ai combattu ce texte avec tout mon cœur et toute mon énergie. Je regrette profondément qu'il ait été voté hier par une courte majorité de députés. Le Parlement entier, Assemblée, Sénat, n'étant pas majoritaire pour voter ce texte, bien loin de là, puisque vous l'avez rappelé à l'instant, le Sénat est très opposé au texte. Et l'Assemblée nationale a voté, certes, à une courte majorité, l'a voté, malheureusement, mais de manière très courte. Si le texte avait été soumis au Congrès, au Parlement complet, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée et du Sénat, à Versailles, le texte aurait été rejeté. Et en l'occurrence, je considère, et je suis intimement convaincu, que les Français, s'ils avaient à se prononcer par référendum, l'auraient rejeté.
C'est, d'ailleurs, on l'a vu, lecture après lecture, débat après débat, la majorité se réduire. Oui. On se rappelle, en première lecture, Olivier Falorni, l'ancien rapporteur auteur et rapporteur de cette proposition de loi, avait déclaré que c'était une forme de plébiscite et que cela ne poserait aucun souci, etc. Et on a vu, au contraire, cette majorité se réduire. On a des députés Renaissance qui nous ont confié que une lecture de plus, et il était possible que le texte ne passe pas.
Bien sûr.
Pourquoi n'y a-t-il pas eu cette lecture de plus, finalement, Christophe Benz ?
Écoutez, j'aurais aimé, vous doutez bien, comme opposant total à ce texte, j'aurais aimé effectivement qu'on aille une lecture supplémentaire, parce que sur un sujet aussi grave, un sujet aussi lourd, je pense qu'il faut prendre le temps. Mais effectivement, entre 2021 et 2026, entre la première lecture, deuxième, troisième, quatrième, en fait, il y a eu sept lectures.
Parce qu'il y a eu effectivement la dissolution en 2024.
Exactement. Il y a eu en fait cinq lectures sur la mandature 2022-2026, avec la dissolution entre-temps, puis, et avant la niche parlementaire, lorsque Olivier Falorni avait proposé ce texte. Donc,
pendant le premier quinquennat, du coup.
Oui, exactement, ouais. Exactement, en 2021. Il l'a déposée en 2017 et elle a été étudiée en 2021. En fait, entre 2021 et aujourd'hui, ou plutôt hier, il y avait à l'époque 70% des députés favorables. Puis, lecture suivante, 65, puis 60, puis 55, puis 52, puis 50 et quelques, pas beaucoup plus que la majorité. Ça prouve donc que plus on examine ce texte, plus il fait peur, légitimement d'ailleurs, aux députés, et moins ils le votent. Le combat n'est pas fini.
Il fait peur parce que certaines mesures vont trop loin, parce que ces fameux garde-fous qu'on nous a tant vantés sautaient les uns après les autres après chaque débat. Qu'est-ce qui finalement, selon vous, a peut-être effrayé un petit peu les députés qui étaient indécis, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient indécis, qui étaient contre, qui finalement se sont abstenus, d'autres qui étaient pour et qui ont voté contre. Enfin, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Qu'est-ce qui a commencer à convaincre les indécis, en quelque sorte, finalement, de voter contre Christophe Benz, selon vous ?
En fait, beaucoup de députés, comme vous le dites, indécis, hésitants, ont basculé. Parfois, ils ont voté pour en première lecture, puis se sont abstenus, puis ont voté contre en lecture définitive. Pourquoi ? Parce que les garde-fous, ils n'existent pas. Il n'y a pas de garde-fous. Ouais. Aucun. En fait, le texte actuel qui a été voté encore une fois malheureusement hier, par parenthèse, j'espère que le Conseil constitutionnel va le retoquer.
On y reviendra sur les raisons qui
Mais en fait, il n'y a pas de garde-fou. En fait, il y a la demande de mort. La demande de mort, elle est, je le redis, légitime. C'est normal de demander la mort quand on a trop mal. C'est normal. C'est humain. La question est de savoir comment la société y répond. Soit elle y répond par le soin, soit elle y répond par la mort provoquée. Ma conviction, c'est qu'il faut y répondre par le soin.
Ouais.
Et surtout pas par la mort provoquée qui est une forme d'abandon. On abandonne le patient. Je ne sais pas faire, je ne sais pas vous soigner, ou je ne peux pas vous soigner, ou vous n'aurez pas accès aux soins. Votre solution à vous, c'est la substance létale. Moi, je refuse totalement, fondamentalement, qu'on en arrive à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun garde-fou, et en fait, la personne qui demande la mort, dans le texte actuel, est enfermée dans sa propre demande de mort, jusqu'au bout. Il n'y a pas de garde-fou, les critères d'accès sont ultra permissifs, la procédure est totalement bancale sur le plan juridique, purement, et alors le contrôle de la procédure, après la mort, a posteriori.
Je ne sais plus quel député, je crois que c'était Jean-François Delfrécy qui disait que on ferait une mise au point dans 2 ou 3 ans. Mais dans 2 ou 3 ans, ça veut dire qu'il y aura déjà eu les premières euthanasies, les premiers morts, évidemment, des morts sur lesquelles on ne pourrait pas revenir parce qu'on ne sait pas revenir de la mort, en tout cas, pas d'un point de vue laïque. Vendredi de Garfel.
Oui, hier soir, j'ai partagé un plateau avec Richard Ramos, qui est député Modem. Ouais. Et qui m'avait expliqué avoir voté cette loi avec la main qui tremblait, mais physiquement. Et à l'inverse, enfin, il a tout de même voté cette loi fin de vie. Comment est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir raté quelque chose dans la manière... En fait, c'est un sujet qui est hyper personnel. Comment est-ce que vous êtes battu dans les débats pour essayer de dépersonnaliser aussi ce sujet, parce que c'est un sujet profond de société. Comment est-ce que vous avez mené la bataille?
C'est un sujet hyper personnel, ouais. Comme vous le dites à l'instant. Je crois que c'est un sujet surtout hyper grave. Parce qu'il concerne la vie et la mort humaine. Vous évoquez mon collègue Richard Ramos qui a, d'après ce que vous dites, voté la main tremblante. Eh bien, moi, je les ai invités, ces députés qui avaient la main tremblante, peut-être le cœur tremblant, je les ai invités à appliquer un principe de précaution, un principe de prudence. Vous n'êtes pas sûr ? C'est logique. Le texte vous fait peur, c'est logique. Alors, si vous appliquez le principe de précaution, à défaut d'être sûr, vous votez contre.
Oui, dans le doute, doit être laissé en faveur de la vie, quoi, en quelque
exactement,
sorte.
Exactement, exactement.
Ouais. On a quand même eu énormément de. C'est fou parce qu'il y a donc quand on le dit, quand on suit les débats et parlementaires et même sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, il y a beaucoup d'accusations mutuelles de mensonges. Certains disent. Certains contestent que dans cette proposition de loi qui a été votée, il y a la possibilité d'euthanasier les personnes déficientes mentales, et les patients atteints de dépression sévère avec même des pulsions suicidaires. Ces gens pourront être éligibles à l'euthanasie, c'est officiel, si le Conseil constitutionnel ne le censure pas.
Oui, malheureusement, oui. On a alerté et le gouvernement, et les rapporteurs de ce texte, et les députés dans leur ensemble. On a alerté en leur disant « attention, encore une fois, la demande de mort est légitime. Mais une fois qu'elle s'encadre par la loi, il faut vérifier le consentement de la personne. Et qui dit vérification du consentement dit capacité à discerner. Si une personne est... malheureusement déficiente sur le plan mental. Alors, a-t-elle le discernement? Je pose la question. J'ai la réponse.
On rappelle que ces gens sont sous tutelle, qu'ils n'ont pas le droit de signer un chèque, qu'ils n'ont pas
exactement.
Le droit d'acheter une maison, qu'ils
n'ont
pas
le droit de demander la mort. C'est quand même assez paradoxal et c'est franchement un euphémisme. Ces personnes-là sont en situation de fragilité, en situation de vulnérabilité. Et on leur permettrait de demander l'acte le plus grave qui existe, je crois, dans ce monde, c'est-à-dire la mort. Donc, dans ce texte, rien ne va.
Ouais.
Rien ne va. Ni sur les critères d'accès, ni sur la procédure, ni sur le contrôle. Et j'allais dire, vous parliez de vérité, ce texte est mensonger. La sémantique qui est utilisée, la terminologie, les termes qui sont employés sont mensongers. On parle d'aide à mourir. Mais l'aide à mourir, je pense que 100% des Français sont pour. Aider, c'est accompagner.
Mourir dans la dignité aussi,
c'est accompagner
dans
jusqu'à la fin. C'est accompagner jusqu'à la fin, avec le soin, avec l'écoute, avec la médecine. C'est ça, l'accompagnement. Donc, l'aide à mourir, factuellement, on est tous pour.
Ouais.
Mais pas sur le fond du texte, parce qu'en fait, ce texte-là, c'est pas l'aide à mourir, c'est le suicide encadré.
Dans les travaux préparatoires de ce texte, la ministre à l'époque, qui était Madame Firmin-Lebaudeau, avait mis en place tout un aéropage d'intellectuels, il y avait l'écrivain Eric Orsenna dedans, justement, pour essayer de trouver un champ lexical adapté, en quelque sorte, et au final, à part cette expression d'aide à mourir, on a l'impression que justement, cette recherche de champ lexical s'est butée quand même à la réalité. À la réalité de la mort, et au fond, le champ lexical des promoteurs de l'euthanasie n'a jamais vraiment fonctionné, puisqu'en réalité, il n'y en avait pas.
En fait, je crois que, en définitive, les promoteurs de la loi dite euthanasie, terme que moi je n'utilise plus...
Suicide assisté.
Voilà, parce qu'en fait, c'est un texte sur le suicide. Fondamentalement, c'est un texte sur le suicide, quelle que soit sa forme. Il a 2 formes. Enfin, il en a 3. Il y a le suicide malheureusement conventionnel, j'aime pas ce terme, mais le suicide qui existe, les gens qui sont... en dépression, les gens qui ont mal,
désespérés,
les gens qui souffrent et qui vont mettre fin à leur jour. On met en place des politiques publiques de prévention pour ces gens qui se suicident, pour éviter qu'ils se suicident. On met tout en place en France pour éviter qu'ils se suicident. Et là, on viendrait légaliser le suicide sous deux formes différentes. Une forme auto-administrée, en gros la personne elle-même s'injecte une substance létale, par voie orale, par voie intraveineuse, concrètement, hein, c'est ça. Ou alors, si elle ne peut pas le faire, elle demande à un médecin ou à un infirmier de le faire. En fait, quelle que soit la forme, ça reste un suicide dans le sens où ça reste la personne qui veut mettre fin à ses jours. Et ça, on le permet maintenant, malheureusement, depuis hier, avec la nouvelle loi. Donc, c'est un texte sur le suicide. L'aide à mourir, je conteste. L'euthanasie, je ne l'utilise plus. C'est un texte sur le suicide.
Alors, il y a une autre question, effectivement, c'est que ce texte a été, on l'a dit, on était scindé en deux. Une partie sur les soins palliatifs, le développement des soins palliatifs qui a été voté à l'unanimité, et cette partie sur la fin de vie. Concrètement, donc, l'Assemblée s'est prononcée pour un développement massif des soins palliatifs, de ne serait-ce que pour permettre à chaque Français d'en avoir le droit. C'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'euthanasie est légalisée avant l'accession aux soins palliatifs. Ça, évidemment, ça pose problème.
Bon, c'est probablement, vous avez raison, c'est probablement le débat le plus essentiel que nous avons eu à l'Assemblée nationale. Moi, je qualifie le texte sur ce suicide assisté ou délégué à un soignant de profondément injuste.
Ouais.
Profondément injuste pour cette raison précise. Comment peut-on demain, à ces 200 000 Français par an qui souffrent en fin de vie, qui demandent des soins palliatifs, qui demandent des soins palliatifs, parfois qui le hurlent, pardon hein, pour le pathos, mais qui le hurlent, parce qu'ils ont très très mal, parce que leur douleur est insupportable. Je veux être soigné, je veux être soigné. Et on leur dit, il n'y a pas de place en soins palliatifs. Vous ne pouvez pas accéder aux soins palliatifs. Ça, c'est 200 000 Français par an, c'est 500 Français par jour, en fin de vie. Et à eux, on leur proposera quoi demain avec cette nouvelle loi? On leur dira, bah écoutez, on n'a pas de soins palliatifs, donc on ne peut pas vous soigner. Donc soit vous souffrez, soit vous mourrez, soit il y a le suicide assisté ou délégué. Et donc, on vous propose la seule alternative, c'est de mourir. C'est dramatique.
C'est glaçant. Vendredi de Garpel.
Oui, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de lobbies aussi qui s'étaient mis en place autour de cette loi fin de vie, notamment des mutuelles. Est-ce que vous, à l'Assemblée, concrètement, est-ce que vous avez vu cette influence arriver ou pas au sein de certains de vos collègues?
En fait, le tabou ultime, c'est la question financière. Les soins palliatifs, ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. Prendre soin d'une personne qui est en fin de vie, et encore une fois, ne pas confondre la fin de vie et la vieillesse, ça n'a rien à voir. On peut être en fin de vie à quelques heures de vie, quelques mois, quelques années, à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, prendre en charge une personne humaine qui est en fin de vie parce qu'elle a une maladie, ça coûte cher. Mais je pense que c'est toute la dignité de notre civilisation que de dire, bah oui, on va investir. Oui, il y a des sujets sur lesquels on va dépenser plus. Oui. Il y a des sujets sur lesquels on fera des économies, c'est pas le sujet de ce soir. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire des économies ou des réductions de dépenses, bien sûr. Pas sur la vie. Et pas sur la fin de vie. Parce que précisément, notre civilisation, elle veut soigner jusqu'au bout. Donc, c'est ça, moi, qui m'effraie, en fait, dans ce texte, c'est que, en fait, on abandonne le patient. On dit, bon, il n'a plus vraiment de valeur, il n'a plus vraiment de dignité, et en plus, il coûte cher. Autant lui supprimer la vie. Bah non. Sa vie, elle vaut d'être vécue, et ce jusqu'à la fin. Donc, il y a un tabou financier, parce qu'effectivement, une euthanasie, ça coûte pas cher.
C'est 50 euros le produit en Belgique.
Oui, c'est évalué autour de 170 euros l'acte létal.
D'accord.
Puisque le terme, pour le coup, celui-ci est bien dans la loi, l'acte létal. Malheureusement, alors bien sûr que les soins palliatifs, ça coûte beaucoup plus cher. Mais qu'est-ce qu'on veut comme société, au final? Est-ce qu'on veut une société qui donne une injection létale à 175 euros? Ou est-ce qu'on veut soigner la vie jusqu'à sa fin parce que cette vie, elle est précieuse?
Sans compter, et cela avait été soulevé à de nombreuses reprises par votre collègue Philippe Juvin, le cas des proches, puisque vous aurez donc une personne qui sera en grande souffrance, qui pour une raison ou pour une autre pourrait demander d'avoir accès au suicide assisté pour des raisons de place en soins palliatifs ou pas forcément, et donc même pour ceux qui restent, c'est abominable, parce que pour les familles qui restent, entre ceux qui seront favorables, ceux qui pousseront dans ce sens, et ceux qui au contraire y seront opposés, enfin, on voit les drames humains, les drames sociaux que cela va provoquer chez ceux qui restent, en fait, tout simplement.
Exactement. C'est précisément, Marc Hainaut, ce que je disais hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Le risque de cette loi, c'est de créer des déchirements. Des déchirements sociaux, familiaux, affectifs et psychologiques. Je pense qu'on ne mesure pas, je pense que les Français ne mesurent peut-être pas encore le nombre de conséquences que cette loi aura, et des conséquences qui seront dramatiques. Les familles, on l'a vu sur bien des cas un peu médiatisés, comme là, je pense au cas Vincent Lambert, où les familles se déchirent. Donc en fait, ça prouve une chose, ça prouve que cette loi-là, elle vient cliver, elle vient soulever des souffrances dans la souffrance. Elle ajoute de la douleur à la douleur. Donc elle ne répond pas à la douleur. Ouais. Parce que le vrai sujet, et pour le coup, si on prend de la hauteur par rapport à et aux soins palliatifs et à la question de la fin de vie et de l'aide à mourir, je mets des guillemets, en fait c'est la question de la prise en charge de la douleur. Comment en France, comment notre système de santé prend en charge la douleur des personnes qui souffrent.
Il y a, donc vous l'aviez dit en début d'émission, le Conseil constitutionnel a été saisi et par le Premier ministre Sébastien Lecornu, mais aussi par Gérard Larcher et par un groupe de sénateurs. Donc ça fait 3 recours devant le Conseil constitutionnel.
Et le groupe RN.
4, voilà, 4e recours. Est-ce qu'il y a un espoir réel que le Conseil constitutionnel revienne sur ce dispositif, ou est-ce que c'est une forme de, on va dire, de baroud d'honneur parlementaire, pardonnez-moi l'expression?
Non, c'est pas un baroud d'honneur, non, c'est la suite du combat. C'est la suite du combat. Donc Marine Le Pen et le groupe Rassemblement National, nous allons déposer demain un recours au Conseil constitutionnel. Je rappelle par parenthèse que Marine Le Pen est très opposée à ce texte, qu'elle m'a fait une entière confiance comme orateur de groupe sur ce texte, parce que, comme moi, elle a conscience que c'est un texte d'abandon. Donc nous déposons un recours pour contester... Alors, les contours juridiques, c'est pas un vote, oui, par définition, mais il y a plein de points, c'est très juridique comme considération, mais sur le délai de rétractation, sur le fait que les établissements de santé
privés... Délai de rétractation qui est 3 jours,
deux jours.
En 2 jours.
Sur le fait
moins
que...
Moins pour acheter un vêtement.
Oui,
précise quand même
pour une machine à laver, effectivement. Ouais. C'est ça qui fait froid dans le dos, d'ailleurs.
Mais on préfère le rappeler à nos auditeurs, quand même.
Oui, tout à fait. 2 jours... pour dire oui, je confirme ma demande de mort, je vais mourir, je veux mourir, et l'acte létal sera effectué. Si vous voulez, ça c'est le délai. Il y a aussi la question des établissements privés de santé qui ne veulent pas procéder à des suicides assistés pour des raisons éthiques, pour des raisons de conscience. D'ailleurs, établissements qui peuvent être confessionnels, religieux ou pas. Il y a les deux.
Je pense que ce serait des pauvres et à ce genre d'institution.
Tout à fait. L'Ordre de Malte. Il y a plein d'organisations qui disent, mais nous, en fait, on est là pour le soin. On n'est pas là pour donner la mort.
Oui.
Donc on refuse l'établissement, les personnes, bien sûr, mais l'établissement, dans sa charte éthique, dans son projet d'établissement, eh bien, on refuse. C'est pas notre philosophie de la vie.
Donc ils demandent le droit d'être exonérés de pratiquer cela, quoi.
Bah, le droit d'exercer leur liberté de conscience.
Ouais. Tout simplement. Et la liberté de conscience, d'ailleurs, on l'entend, ça aussi, elle aurait été garantie dans la proposition de loi.
Non, elle est garantie à titre individuel, pour les médecins et infirmiers seulement. Les pharmaciens, malheureusement, n'ont pas été inclus dans la clause de conscience. Donc les pharmaciens seront obligés de délivrer une substance létale, malheureusement.
On pourra aller le retirer en pharmacie, ça.
Pas en pharmacie d'officine pour le moment.
Oui.
Pour le moment. Mais à terme, ce sera le cas. Donc, les pharmaciens n'ont pas de clause de conscience. On a déposé des amendements, vous vous doutez bien, par dizaines, pour dire, bah non, les pharmaciens aussi ont le droit de dire, bah, je ne veux pas participer dans la chaîne, si je puis dire, dans la chaîne de l'acte létal, je ne veux pas y participer. Je ne veux pas participer à un acte de mort d'une personne. Malheureusement, ça a été refusé.
On va revenir quand même sur cette prise de position qui a été tenue ce matin. Alors, on rappelle que le groupe Rassemblement National a voté en immense majorité contre ce texte. Seulement 12 députés de votre groupe ont voté pour. Laurent Jacobelli, ce matin, qui avait voté contre ce texte, a déclaré chez nos confrères du service public qu'il ne reviendrait pas, que le Rassemblement National, s'il était au pouvoir, ne reviendrait pas sur cette loi. Qu'est-ce qu'il en est réellement, Christophe Benz? Parce qu'on suppose que vous avez eu le temps de vous entretenir avec...
Ça tombe bien, j'en ai parlé avec mon collègue Laurent Jacobelli il y a peut-être 2 ou 3 heures dans l'hémicycle de l'Assemblée. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Pas du tout. Et j'ai revu donc sur France Info.
On parle de la reprise d'une dépêche AFP qui reprenait des propos qu'il aurait tenus sur un plateau.
En ayant réécouté les propos de mon collègue Laurent Jacobelli, c'est pas ce qu'il a dit. Pas du tout. Il n'a pas dit on abroge ou on n'abroge pas. Il a dit autre chose sur l'ensemble des lois dites de société.
Ouais.
Moi, je vous dis aujourd'hui, je pense que la solution n'est pas immédiate quant à une abrogation ou pas. Je m'explique. D'abord, la loi n'est pas promulguée, premièrement. Elle peut ne pas l'être.
Oui.
Elle peut ne pas l'être parce que le Conseil constitutionnel dira non ou en partie non. Peut-être parce que, je ne sais pas, le pape viendra en France en septembre, par exemple, pour dire à Emmanuel Macron, il ne faut pas faire ça.
En peut-être tant que chef d'État, Emmanuel Macron peut aussi changer d'avis, d'ailleurs.
Tout à fait. Le président promulgue ou pas. Donc, il n'est pas certain que cette loi soit appliquée. Alors, nous parlons, allez voter, mais ça n'est pas appliqué.
Ouais.
Moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut mettre en place les soins palliatifs pour tous, pour que tout le monde ait à minima le choix, le vrai choix, en fait. C'est-à-dire, bah, je veux mourir, ça je le demande parce que j'ai mal, ou je veux être soigné. Et donc, être soigné, mais être soigné de manière effective, pas juste de manière conceptuelle, pas juste la demande dans l'absolu. Non, non, concrètement, j'ai rendez-vous avec un médecin. C'est ça, l'effectivité.
Ouais. Et on a eu beaucoup de réactions d'auditeurs, Christophe Benz, notamment un auditeur qui déplore le vote qui a eu lieu ce 15 juillet et reproche à Marine Le Pen, à la direction du groupe Rassemblement National, de ne pas avoir de donner de consignes de vote contre, d'obliger en quelque sorte ses députés à voter contre ce texte.
Non, mais je comprends. Je comprends cet auditeur que je ne connais pas, mais je comprends. Marine Le Pen l'a dit au tout début de l'examen du texte. Nous avons liberté de vote parce que c'est un sujet de conscience personnelle. C'est un sujet intime, en fait. Donc c'est normal, c'est logique, c'est naturel de pouvoir voter en conscience. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y avait une liberté de vote. Parce que moi, le travail que j'ai effectué depuis 3 ans, c'est pas d'imposer à quelques députés que ce soit de voter dans un sens ou dans l'autre. C'est de les convaincre.
Ouais.
Avec des arguments de fond. Et d'ailleurs, la preuve, pour répondre à votre auditeur, la preuve, c'est que Marine Le Pen, donc, elle-même, est opposée à ce texte et elle a voté contre, à toutes les lectures. La majorité, 87%, je crois, des députés RN ont voté contre. Et, comme dans l'Assemblée nationale complète, le groupe RN a eu de plus en plus de députés défavorables, lecture après lecture.
Okay.
Plus on a examiné le texte, plus les députés, groupe RN et ailleurs, ont voté contre.
Un auditeur nous rappelle que ce n'est pas 50 députés qui ont fait cette courte majorité, 50 c'est l'écart de voix, ce qui donne 25 députés
oui,
seulement,
c'est vrai.
C'est-à-dire 4% du total, et en plus il y a eu 29 abstentions, donc c'est vrai que la majorité,
c'est vrai.
Et la majorité était extrêmement courte.
Mathématiquement, c'est vrai.
et question d'une auditrice, pouvez-vous m'indiquer si, comme j'ai cru l'entendre par ailleurs, le dispositif de euthanasie ou de suicide assisté ne serait applicable qu'aux Français ou aux personnes nées en France ?
Non, c'est français et personne résidant en France depuis moins de 10 ans.
D'accord.
Au moins 10 ans, pardon.
Mais pas ouvert, par exemple, aux citoyens de l'Union Européenne ou...
Non.
Ouais.
Non, on est en droit, pour le coup, on légifère en droit français, c'est logique.
Donc il nous reste 15 secondes, Christophe Benz, en un mot pour conclure. Quelle espérance vous reste-t-il, tout simplement?
Le combat continue, cette loi, je l'ai dit, est votée, mais elle n'est pas appliquée. J'espère qu'elle ne le sera jamais.
Merci Christophe Benz, député Rassemblement National de Haute-Marne, représentant le Rassemblement National, référent du RN sur le texte de loi fin de vie. Merci Bondy de Garpel d'avoir été avec
nous.
Merci à vous, chers auditeurs, surtout d'avoir été très nombreux à nous suivre, à nous écrire. Merci à la technique, merci à ceux qui nous, à celui qui nous faisait passer vos questions, et à très bientôt, et à jeudi prochain pour une prochaine émission.
Ça suffit maintenant.